7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, excellente semaine. Nous sommes le lundi 14 janvier. Française, mes chers compatriotes, une lettre à la une ce matin, celle d'Emmanuel Macron aux Français. Avant le grand débat national qui doit commencer demain, le président interpelle les Français et les invite à débattre sur tous les thèmes de la vie quotidienne, décryptage et analyse. Dès le journal de 7h avec Hélène Zélani et puis à 7h40 avec Jean-Michel Apathy. Et puis dans notre matinale, retour sur ce drame qui a ému toute la France, l'explosion samedi matin d'une boulangerie de la rue Trévise à Paris. Bilan 4 victimes, dont 2 pompiers et plus de 50 blessés. À 7h45, je recevrai le lieutenant-colonel Gabriel Plus, le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que Jean-Paul Claret, le maire de la commune en Savoie, d'où était originaire Simon Cartanaz, l'un des 2 jeunes pompiers qui a perdu la vie. Voilà pour le sommaire, on est ensemble jusqu'à 9h, c'est lundi, c'est la reprise, on pense à vous et on vous accompagne jusqu'à 9h.
Excellent début de semaine en ce lundi 14 janvier. Et très bon réveil à tous, il est 7h. Et votre matinale info sur Europe 1, c'est avec Nikos Aliagas.
Le journal est présenté par Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Cette fameuse missive qui nous est adressée à tous par le président de la République comme premier, Emmanuel Macron a donc dévoilé hier soir cette longue lettre pour cadrer le grand débat national qui s'ouvre demain. Un quartier encore sous le choc, les habitants d'une douzaine d'immeubles ne peuvent plus rentrer chez eux. Il faut sécuriser les bâtiments après l'explosion au gaz rue de Trévise qui a fait 4 morts dont 2 pompiers. Et puis un supermarché d'un genre très particulier, uniquement des produits périmés dans les rayons. C'est une première en France et ça se passe à Avignon. On vous y emmènera.
Europe 1.
6 pages, 34 questions. Emmanuel Macron s'adresse donc à nous, les Français, pour nous demander de participer au grand débat national, de nous approprier l'exercice. Que faut-il retenir de cette lettre, Jean-Rémy Baudeau ?
Eh bien Hélène, dès les premières lignes, le président explique qu'il n'y aura pas de questions interdites dans ce débat, même si à demi-mot, il affirme ne pas vouloir revenir sur l'ISF, ni sur tout ce qui a déjà été voté. Pour Emmanuel Macron, ce temps doit être l'occasion d'apporter, je cite, une clarification à notre projet national et européen, et par la suite, à travers les 4 thèmes du débat que sont la fiscalité, l'État, la transition écologique et la démocratie, le président propose des questions qu'il juge essentielles. En tout, plus d'une trentaine d'interrogations inspirées des premiers cahiers de doléances. Comment rendre notre fiscalité plus juste? Quelles économies vous semblent prioritaires? Faut-il reconnaître le vote blanc? Ou encore, quelles propositions concrètes pour accélérer notre transition environnementale?
Et il y a aussi des questions un peu plus sensibles.
Oui, le président parle aussi laïcité ou immigration avec la question sur d'éventuels quotas. C'est une revendication qu'on ne retrouve pas chez les Gilets jaunes, mais il s'agit pour le chef de l'État de parler à l'ensemble des Français. Emmanuel Macron qui appelle dans les dernières lignes à transformer les colères en solutions. Il promet un nouveau contrat pour la nation et rappelle que le débat est, je cite, « ni une élection ». Ni un référendum.
Jean-Rémy Baudeau. Sans surprise, l'opposition ne ménage pas ses critiques. Un enfumage pour la France insoumise. Laurent Wauquiez pour leur LR dénonce le risque d'un artifice grossier. Manœuvre de l'exécutif pour gagner du temps, dit-on au Rassemblement National, tandis qu'au PS, Olivier Faure estime qu'on ne convoque pas tous les Français à un débat en leur interdisant de parler par exemple de l'ISF. En fin de journée, Édouard Philippe doit préciser les modalités concrètes de l'organisation de ce grand débat qui sera lancé demain.
Et dans l'Aude, des groupes de gilets jaunes ont décidé d'organiser leur propre grand débat.
Oui, l'idée, c'est d'aller directement à la rencontre des habitants avec un questionnaire qui reprend les principales revendications du mouvement, histoire de définir les priorités. L'objectif est de remplir au moins 30 000 formulaires dans le département. On vous raconte comment ça se passe à Carcassonne avec Benjamin Péter.
Ils se sont installés devant l'entrée de cet hypermarché et invitent les clients à remplir leur questionnaire.
Vous avez 5 thèmes, donc chaque fois vous cochez que 3 cases. Prenez votre temps.
Fiscalité, écologie, réforme de l'État, santé, éducation. Pas toujours évident de définir ses priorités dans chacun de ces thèmes.
Prévoir un impôt sur le revenu.
Avec plus de tranches.
Ah ça oui, ça c'est très important. Coche pas tout de suite, il y en a peut-être d'autres.
C'est bête qu'on puisse pas cocher plus de 3.
Il y en a une autre qui m'intéressait bien, moi, c'était annuler la hausse de la CSG et supprimer les niches fiscales.
Mais Christian est ravi de pouvoir donner son avis.
Il y a nécessité à ce que le français s'exprime. On ne peut pas continuer comme ça à avoir des politiques qui durent depuis 70 ans sans que ça change.
Alors en tout, le document compile 67 propositions entendues sur les ronds-points, lues sur le net. Romain appartient à ce groupe Carcassonne en colère à l'origine de la consultation.
C'est pour montrer que nous sommes force de proposition. Chacun des revendications, on va voir donc nos concitoyens, pas que les gilets jaunes, pour prouver à notre gouvernement qu'il y a des choses qui ressortent et que lui n'entend pas.
Et l'idée séduit puisque dans les Hérault et les Pyrénées-Orientales, d'autres groupes souhaitent également lancer une consultation en reprenant le même questionnaire et une vingtaine d'autres départements pourraient les imiter. À Carcassonne, Benjamin Péter, Europe 1.
Et selon les derniers sondages, entre 32 et 41% des Français ont l'intention de participer d'une manière ou d'une autre au grand débat.
Europe 1, il est 7h04.
L'ancien ministre Thierry Mariani en troisième position sur cette liste qui sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h20. Et puis toujours des zones d'ombre après la violente explosion de samedi rue de Trévise dans le centre de Paris.
4 personnes sont mortes dont 2 pompiers. Il y a aussi une cinquantaine de blessés dont 9 graves. L'explosion qui serait liée à une fuite de gaz a fait trembler les immeubles tout autour. 12 restent d'ailleurs fermés. Il faut vérifier si les fondations ont bougé dans la déflagration. Impossible donc pour les habitants de rentrer chez eux. Victor Dolande.
Pauline fait rouler sa valise. Dedans, quelques affaires qu'elle a pu récupérer chez elle. Depuis la catastrophe, elle dort à l'hôtel. Le gaz et l'électricité ne sont toujours pas rétablis dans son immeuble. Et le traumatisme est encore trop fort.
Quand je suis re-rentrée chez moi, j'ai pleuré tout de suite. Parce que j'ai revécu l'explosion, en fait, qui était devant mes yeux. Mais dès que je fais autre chose, ça va.
Donc peut-être que ça vous aidera justement
ouais.
demain de
ouais,
reprendre
ouais,
le travail.
Complètement. Puis je pense que ça me changera les idées.
Reprendre une vie normale, difficile quand on ne peut pas rentrer chez soi. Heureusement, de nombreux habitants du quartier comme Arnaud ont apporté des habits à la mairie du 9e arrondissement de Paris.
On a apporté une valise pleine de vêtements. Ça nous a paru être la moindre des choses d'apporter des affaires. Ouais.
Une solidarité aussi efficace que rapide. Christian est bénévole au Lions Club. Il n'a pas hésité une seconde à puiser dans le fonds de secours de son association.
Ça nous permettra d'agir rapidement, notamment par exemple pour les enfants, pour éventuellement acheter des cartables tout simplement pour qu'ils puissent aller à l'école, pour ne pas couper le rythme de leur vie.
Autant de petits gestes indispensables qui aideront les habitants sinistrés à tourner la page.
Victor Dolande, les pompiers de Paris ont lancé une cagnotte pour soutenir les familles des 2 sapeurs-pompiers tués dans l'explosion, Simon Cartanaz et Nathanaël Josselin. Elle a déjà rassemblé plus de 165 000 euros.
Et à 7h45, on sera avec le lieutenant-colonel, le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, Gabriel Plus, justement pour parler de cette explosion de samedi.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal, l'Italien Cesare Battisti, attendu à Rome, accusé de 4 meurtres. Il a été expulsé par la Bolivie. A tout de suite sur Europe 1. On vous dit tout dans le journal d'Elle.
Il est 7h07, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zellani. Fin de cavale pour l'ex-activiste d'extrême gauche italien Cesare Battisti.
Oui, condamné à la perpétuité pour 4 meurtres dans les années 70. Il a été livré aux autorités italiennes par la Bolivie et doit arriver à Rome à la mi-journée. Et il sera emprisonné. Écoutez ses réactions captées dans les rues de Rome par Marine Henriot.
Je fais partie d'une génération qui n'a pas connu Cesare Battisti. Mais ça me fait plaisir qu'une personne qui a commis des actes terroristes, un jour ou l'autre, paie pour la souffrance qu'elle a causée.
Cela nous rappelle des temps très obscurs pour l'Italie, avec une grande division politique.
C'est un cercle qui devait se refermer, une affaire qui est restée en suspens trop longtemps. Pour nous qui avons vécu des années de plomb, cette arrestation... elle a une dimension cathartique.
Cesare Battisti est une personne condamnée pour homicide. Elle a fui la prison et appartient maintenant à la justice. Je ne sais pas si les familles des victimes trouveront la paix, mais au moins elles trouveront la justice.
Et le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, compte réclamer rapidement à la France d'autres ex-militants d'extrême gauche condamnés pour meurtre.
Pour la première fois en France, un supermarché solidaire propose des produits alimentaires périmé.
Oui, c'est à Avignon, dans le Vaucluse. Une association propose aux personnes en difficulté d'acheter à prix cassé. Certes, les dates limites sont dépassées, mais bien entendu, il n'y a aucun risque pour la santé. C'est aussi un concept anti-gaspillage pour inciter les grandes surfaces à moins jeter. Nathalie Chevance est allée y faire un tour pour Europe 1.
C'est un supermarché presque comme les autres, sauf qu'au rayon alimentaire, toutes les dates limites d'utilisation optimale sont dépassées.
Un paquet de céréales d'une grande marque, au 26 octobre 2018, le produit peut être consommé encore plusieurs mois après la date de fin de vie. Donc là, elle était à 1 euro, la boîte.
1 euro au lieu de ?
Au lieu de, je crois qu'on est aux alentours de 3 euros dans la grande distribution classique.
Des produits offerts par les grandes enseignes, démarchés par Nabil Haïtar, bénévole au sein de l'association Ensemble Mieux Vivre en Vaucluse.
Aujourd'hui, le cahier des charges de la grande distribution est extrêmement exigeant. Les produits doivent être retirés bien avant finalement leur durée de vie totale. Et donc, on s'adresse à ces gens-là pour leur dire, vos produits, en fait, ils peuvent encore bénéficier à des personnes qui en ont besoin.
Avec des tests effectués sur les produits produits les plus sensibles, cette famille avec trois enfants arrive à faire les courses de la semaine pour 50 euros.
J'ai pris des hamburgers, du fromage, des crêpes au chocolat, des bonbons pour les enfants. Ouais, y en a qui sont périmés depuis un mois, mais pas beaucoup en fait.
On peut les manger, hein. Deux mois, même trois mois après, c'est bon.
Si on avait les moyens d'aller dans un supermarché normal, on serait allé.
Un supermarché solidaire qui ne tire aucun bénéfice, l'objectif étant de servir les clients les plus modestes et de couvrir les frais. Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis on reste dans le sud, précisément au stade Vélodrome à Marseille, où les supporters de l'OM ont crié leur colère hier soir lors du match contre Monaco en Ligue 1, avec notamment cette banderole « Vous êtes la honte de Marseille ». Score
dur.
Final, un partout, l'OM pointe à la 9e place du classement.
Merci Hélène Zélani pour le journal de 7h.